Bonjour à chacun, à chacune. On s'est déjà salué, on est déjà intervenu. Je le disais tout à l'heure, introduction de Daniel tout à l'heure, et puis les chants que je n'avais pas forcément regardé en détail. Je crois que ça nous parle beaucoup de la marche chrétienne. Et dans cette introduction, il nous était dit que parfois, il y a des choses qui sont lourdes. Et au milieu de cela, nous louons le Seigneur, nous lui rendons grâce, et ça a été fait abondamment. Il y a des prières, des requêtes, des demandes, des actions de grâce. Et je crois qu'elles viennent du cœur. Et c'est toute l'œuvre de la foi. Par moments, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand on prie comme ça, au milieu de difficultés, on loue le Seigneur, on dit merci Seigneur, et puis des fois on se force pour chercher la reconnaissance. Et des fois l'ennemi nous glisse, attends, t'es pas un peu hypocrite là, t'as vu ce qui t'arrive, etc. Je crois que c'est aussi ça la foi, on sait, c'est un miracle de vivre cela. Et ce matin, le thème de mon message, qui est un peu en ligne avec le baptême, parce que le baptême, c'est une entrée, il y a une nouvelle vie qui vient là, et on sait que quand il y a une nouvelle naissance, naissance d'un bébé, c'est quand même un sujet de réjouissance, c'est quand même une vie qui jaillit, et puis très rapidement, tout un tas d'obstacles viennent dans la vie physique, ça peut être des maladies. Cette semaine, on avait une dame avec qui on a collaboré, qui était enceinte, qui a accouché, et puis 5 jours après la naissance, le bébé a un problème. Donc vous imaginez, à un moment, ça, retour à l'hôpital, et puis finalement, bon, ça s'est bien arrangé, mais dès que la vie surgit, l'ennemi de la vie, il voudrait bien lui tordre le cou à cette vie. Hein ? Et le thème de mon message ce matin, c'est « Nous ne perdons pas courage » sur la base de 2 Corinthiens 4, un chapitre que j'affectionne particulièrement. Alors vous savez, comme d'habitude dans la Bible, il y a 3 choses que le Seigneur déteste, et même 4. Et bien là, on va lire 2 Corinthiens 4, mais on va lire aussi quelques versets de 2 Corinthiens 3. Parce que, et avant même de lire, je voudrais situer un peu ce passage. C'est un passage donc d'une lettre de l'apôtre Paul. Et je crois que c'est bon de rappeler qui était Paul. Paul était un pharisien, un théologien impeccable. Pour reprendre une expression qui a été utilisée il y a quelques années, droit dans ses bottes, zélé pour la religion de ses pères, légaliste à souhait, alors ça, voilà, mais qui un jour a été visité par Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Et là, tout a changé. Et Dieu, qui regarde au cœur, a vu ce zèle et a su quoi faire de cette intelligence brillante qui avait fait fausse route et qui était montée, je dirais, dans les tours infernales de l'orgueil. Quand on utilise ce verset, vous savez, Dieu utilise les choses folles du monde pour convaincre les sages. On pense souvent à des gens, et Dieu appelait tout un tas de gens très humbles, des pécheurs, etc. Alors on pense souvent à ça. Moi, je crois que je pense à Paul aussi. Dieu a utilisé les choses folles de ce monde, les puissances de raisonnement, pour confondre les sages. Dieu a utilisé Paul pour aller convaincre, parler à des autorités extrêmement élevées, puissantes, qui auraient pu l'écraser comme une mouche. Il a utilisé les choses folles de ce monde. Paul a été un fou religieux. Mais Dieu regardait au cœur. Dieu savait ce qu'il allait en faire. Paul donc a, après cette conversion spectaculaire, une vie transformée, et retourné vers ceux qu'il persécutait, et puis Dieu a utilisé un homme extrêmement simple, je pense souvent à Ananias, et puis à Barnabas, qui l'a présenté aux apôtres, cet Uliberlu, cet homme quand même devant lequel tout le monde tremblait. Hein. Il avait des pouvoirs pour aller détruire les chrétiens. Et ils l'ont accepté. Ils ont reconnu qu'il avait reçu, sa vie était transformée. Paul donc a fondé plusieurs communautés de croyants dans toute l'Asie mineure, dont une très importante à Corinthe. Les Corinthiens étaient pétris de toute la pensée de la Grèce antique, les philosophies et divinités en grand nombre, censées conduire vers un certain bonheur ou une absence de douleur. L'hédonisme, le stoïcisme, le platonisme, choses toujours actuelles, et un certain nombre ont reçu parmi ces Corinthiens la révélation de la personne de Jésus-Christ, et cela a changé leur vie. Ça ressemble un peu à notre siècle, ça ressemble un peu au témoignage de Géraldine, ces choses. Alors Paul, il encourage ces convertis de plus ou moins longue date, il les exhorte, il les reprend, et surtout, Paul est un exemple de vie chrétienne. Donc le texte que nous allons lire, il est à la fois un témoignage de ce qui se passe lorsqu'un cœur se tourne vers le Seigneur, et puis aussi ça nous décrit, alors là c'est l'apôtre Paul, il parle pour lui, mais je pense qu'on peut se l'appliquer, il est aussi question de cette marche à contre-courant qui commence à partir du moment où nos yeux sont ouverts. Et je vais lire, il fait un développement dans 2 Corinthiens 3, mais je voulais lire quand même quelques versets où il précise que dans les synagogues jusqu'à ce jour, on lit Moïse, on lit l'Ancien Testament. Et il dit ceci en 2 Corinthiens 3, donc au verset 15, et je lirai ensuite jusqu'à la fin de 2 Corinthiens 4. Nous lisons « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. » Il parle là du peuple hébreu. « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. C'est pourquoi, dit Paul, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous n'avons pas ici le même ministère que Paul, mais nous pouvons dire que nous l'avons selon la miséricorde qui nous a été faite. Alors, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à tout. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Ce que nous avons reçu, ce n'est pas pour le garder, c'est pour que d'autres en profitent aussi. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je voudrais aborder deux points. Là, premièrement, un voile doit être ôté. C'est un texte pour moi extrêmement touchant, adressé à des chrétiens nés nouveaux qui ont fait l'expérience de ce voile qui se déchire. Et d'un coup, je vois les choses différentes. Je réalise mon péché, ma misère, et en même temps la grâce de Dieu. Il y a cette joie inexplicable, inexplicable. Et puis, j'aime aussi ce verset, un amour qui se répand dans nos cœurs quand Dieu vient nous visiter. Et là, on sait que c'est lui, parce que nous n'avons pas cet amour-là. Alors, dans l'Évangile, on voit des hommes, des femmes qui ont été touchés ainsi. On pense à Zachée. Il faut quand même quelque chose de surnaturel pour arracher cet homme qui avait une fonction particulière, qui était détesté, mais enfin, ça faisait bien son affaire, qui dépassait sans doute la mesure qu'on lui demandait. La femme samaritaine, une vie de misère, mais qui, à qui Jésus dit toute sa vie. Elle s'en va. En disant, voilà un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle ne s'en vantait pas, mais il y avait une libération. La femme pécheresse, qui va oser venir dans la maison d'un noble religieux, j'en ai parlé l'autre jour, mais qui va oser. D'où va-t-elle tenir cette force, elle, la mépriser ? David, après ce qu'il a fait, mais qui revient à Dieu. Un tel parmi nous. Certains qui étaient dans la drogue, d'autres qui étaient dans le sexe, dans le vol. Et un jour, Dieu a déchiré le voile. On a réalisé. J'écoutais un enseignement d'un frère qui parlait sur la guérison intérieure et qui citait cet exemple d'un couple non converti, mais chacun de son côté. Il y avait des difficultés dans le couple et les circonstances avaient fait que chacun de son côté, ils avaient été abordés par des chrétiens nés de nouveau, chacun s'était retrouvé avec une Bible. Et il la lisait chacun de leur côté en secret. Et au fil des mois, les difficultés s'estompaient dans le couple, parce que chacun était touché par la parole. Et puis, essayer d'en tenir compte. Et un jour, le mari dit à sa femme, j'ai un secret à te dire. Je lis la Bible. Et elle aussi. La puissance de la parole de Dieu, chacun de leur côté. Dieu, il est fort. C'est pas des miracles, ça ? Les exemples sont nombreux, des vies où le voile est déchiré. Je crois que c'est une expression qui parle. Du coup, Paul rappelle que ce voile qui est sur les yeux des hommes et des femmes de ce monde, c'est le Dieu de ce siècle, le Dieu avec un D minuscule, qui a jeté ce voile. Mais il rappelle que Dieu, avec un D majuscule, qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, et qui a séparé la lumière des ténèbres, est le même et le seul capable de faire briller la lumière dans nos cœurs, et aussi dans le cœur de ceux qui, aujourd'hui, sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. L'ennemi de nos âmes, celui qui garde des hommes, parfois toute une vie, captifs, dans la peur de la mort. Cette peur de la mort qui les pousse à nier cette mort ou à développer toutes sortes de stratégies pour y échapper. Projet sur projet, jouissance sans limite, insensibilisation ou tout ce qui pousse vers une pseudo-paix. Le Dieu de ce siècle. Ce passage me touche vraiment parce que Paul nous tient les deux bouts de l'affaire. Il nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a obscurci l'intelligence. Mais Dieu qui a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, a fait briller dans nos cœurs, alors il peut faire briller dans le cœur de ceux pour lesquels il y a encore le voile. Tout se tient. Nous n'avons pas à nous glorifier. Mais ce que nous avons reçu, nous ne pouvons pas le garder. Lorsque la vérité, effectivement, trouve la place dans le cœur de l'homme, celui-ci réalise que la culpabilité qui le mine, bien qu'il la rejette, la mettant sur le compte d'une morale désuète, est en fait liée au péché, c'est-à-dire à une prise d'indépendance révoltée contre celui qui nous a créés et lui a donné la vie. Et il réalise en même temps qu'un homme, Jésus-Christ, qui est aussi le Fils de Dieu, a pris sa place dans la condamnation que méritait cette révolte. Alors le combat cesse, les yeux s'ouvrent et une vie nouvelle peut commencer. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Le Dieu de l'abîme n'est pas un Dieu parmi les autres dont il faudrait négocier les faveurs pour que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Il est Dieu, le Tout-Puissant, le juste juge. Oui, mais Jésus-Christ nous révèle qu'il est notre Père miséricordieux, compatissant, riche en bonté, qui pardonne le péché, l'iniquité et même la rébellion de celui qui revient à lui. Et je crois que c'est vraiment ce témoignage aussi qui m'a inspiré ce matin. C'est un vrai problème, la question de la soumission, de la capitulation. Je crois que Géraldine nous a décrit que ça peut durer des années, des décennies, frères et sœurs. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, au milieu de nous. On peut avoir reçu les choses, et puis à un moment, les choses se réarc-boutent. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait cette capitulation complète. Alors, dès que cette capitulation est faite, notre regard change et on dit que la conversion, c'est un demi-tour. Alors, si nous faisons demi-tour, nous marchions dans un sens, selon le train de ce monde, nous dit Paul, et le train de ce monde, je peux vous dire, il file vite. On peut prendre l'image aussi d'une rivière, on marche en descendant dans le sens du courant, ça va bien, ça nous porte. On peut prendre la navigation, le vent arrière, c'est agréable. Je ne sais pas si vous avez déjà navigué, vent arrière, c'est agréable, il n'y a pas d'effort à faire. C'est beau, la voile est belle, le spi est beau. Mais, vous savez, ça flotte. C'est une allure qui peut... Ça glisse, c'est sympa. On peut avoir des belles sensations, des belles émotions. Mais ça nous mène où ? Dans le sens du vent. Si on fait demi-tour lorsqu'on marche dans le sens de l'esprit de ce monde, ça peut nous porter, ça peut être sympa. Mais quand on fait demi-tour, alors là on voit la vitesse du vent. Là on voit la puissance du courant. C'est quand on fait demi-tour. C'est pour ça, quand on vient à Christ, après cette illumination, comme on fait demi-tour, on prend le courant et on se le prend de face. Et ne croyons pas que parce que nous on a fait demi-tour, que le monde a fait demi-tour. Le monde est le monde, l'esprit du monde est l'esprit du monde, et le prince de ce monde, sous le contrôle de celui qu'on a rencontré, mais il règne sur ce monde pour l'instant. Il est le prince de ce monde, parce que celui qui règne, il est au-dessus. Toujours est-il que pour nous, qui sommes sur cette terre, au moment où on fait demi-tour, et c'est ça la marche chrétienne, eh bien ce sera une marche à contre-courant. Les exemples de la marche selon le courant, on pourrait les multiplier, dans une foule, suivre la foule. Des fois, il n'y a pas le choix. Mais si vous essayez dans un hall de gare de traverser une foule, compliqué, hein ? Compliqué. On finit par se marcher sur les pieds. On peut avoir des réactions un peu violentes, hein, quand vous essayez de remonter une file comme ça. Mais pour l'homme ou la femme dont le cœur a été changé, le but est maintenant devant lui ou elle. Et quel est ce but ? Tu l'as dit, Géraldine. Connaître celui qui a été reconnu comme le Sauveur et le Seigneur, et le suivre, et tenir jusqu'au bout. Et le jusqu'au bout, c'est quoi ? Ben écoutez, c'est soit notre dernier souffle, soit le retour de notre Seigneur. Et c'est cette marche-là dont nous parle l'apôtre. Et il nous dit là, j'allais dire ces versets pressés, oui. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Quand on marche à contre-courant dans une rivière, il y a bien une pression de l'eau sur le corps. Je ne sais pas si vous avez essayé à la mer, il y a vraiment une pression dans les piscines à courant, là. Il y a vraiment une pression. Dans la tempête, il y a vraiment une pression. L'autre jour, j'étais avec ma petite fille du côté de Morlaix. Ça, le vent est soufflé à l'horizontale. Et le sable aussi. Ça cingle. Quand on est en dos, ça va. Mais de face, ça cingle. Alors, presser de toute manière, pourquoi ? Eh bien, parce que le Seigneur Jésus nous a dit aussi que ses disciples, on était sel et lumière. Eh bien, pour être lumière, il est dit qu'elle ne se met pas sous un boisseau. Donc, il nous faut la force, parfois, de parler. La première lettre de Pierre nous dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous et ayant une bonne conscience afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » En voilà un contre-courant. Un contre-courant dans le cadre d'être lumière. On me demande raison de mon espérance, et je tremble, et je sais que ce que je vais répondre, même avec douceur et respect, va me poser des questions. Et je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais par moments, on aimerait bien être ailleurs. Et pourtant, le Seigneur te dit, vas-y, réponds. Vas-y, réponds. Je me souviens avoir vécu une situation comme ça, un 24 décembre, à l'entrée du Leclerc à Saint-Grégoire, où je voulais faire une course, donc je voulais faire ça de bonne heure et liquider. Mais je n'avais pas été le seul à avoir la même idée. Donc nous étions devant les grilles fermées du supermarché, avec le caddie. Et nous étions déjà 200 accumulés là. Et j'étais arrivé vraiment très tôt. Et le Seigneur me dit, tourne-toi et parle-leur. On aimerait ailleurs. Mais j'étais là. Je ne pouvais plus me sauver. Et là, Seigneur, je me suis tourné et j'ai parlé. Le sujet était offert, 24 décembre, Noël, le petit Jésus. Et j'ai parlé. 200 personnes, on était aussi nombreux qu'ici. Puis j'ai parlé. Et le Seigneur donne. Mais reconnaissons qu'il y a un moment, on se dit, mais je voudrais être ailleurs. Le Seigneur donne. Après, vous savez, c'est drôle dans les rayons. Il y en a qui mettent le nez dans le chariot, il y en a d'autres qui vous regardent. Il y en a qui en veulent plus. Il y en a quelques-uns qui en veulent plus. Il y en a beaucoup qui n'en veulent plus. Il y en a beaucoup qui n'en veulent pas. Mais il y a quelques-uns qui en veulent plus. Alors ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais nous sommes pressés. Être lumière, ouais. Je rappelle souvent que nous sommes lumière. Et les lampadaires dans la rue, ce n'est pas nous qui les plaçons. Ils sont là. Ça a été étudié par les ingénieurs urbanistes. Le lampadaire, il est là parce qu'il est fait pour éclairer. Eh bien, nous, le Seigneur, des fois, il nous plante. Il nous plante. Mais Seigneur, je n'ai pas envie d'être là, j'ai plein de projets. Et il nous plante là. C'est lui l'architecte ou le constructeur ou c'est nous? Il nous plante. Seigneur, tu m'as planté là pour combien de temps? Je t'ai planté, c'est moi qui sais. Alléluia. Amen. Parfois lumière, parfois sel. Et pour être sel, il faut parfois la force de se taire ou de dire non. Toujours dans 1 Pierre, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, ce verset a bouleversé dans ma vie. C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche et ils vous calomnient, deuxième fois qu'ils vous calomnient. Tout le monde n'a pas été dans la débauche et les excès. Mais je peux vous dire que quand on y a été et qu'on retourne au milieu, parfois sa famille, parce que c'est des choses qui sont des fois sur des familles, et que certaines histoires ou certains sujets commencent, là, c'est pas lumière, là, c'est sel. Parce qu'il y a des lieux qu'on a peut-être fréquentés où certains pensent, « Ah, oh, je me suis converti, puis alors, maintenant, je dois retourner dans les boîtes. » Attends un peu, quand même. Attends un peu. Que le Seigneur, peut-être, t'équipe. Que tu ne sois pas emporté, comme c'est dit aussi dans la parole, alors que tu viens juste d'en sortir. Mais peut-être qu'il retournera un jour. Mais avant d'y être comme lumière, je pense qu'il sera comme celle-là. Manifester que c'est assez, en effet, par le passé, d'avoir consumé tout ça. Et il faut une force. Il faut une force. Et ça, ça crée de la pression pour résister dans ces situations-là. Pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. C'est des mots extraordinaires. Il y a une finesse dans ces phrases. On est pressé, mais pas réduit à l'extrémité. Parce qu'on sait celui en qui on a cru. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Oui, Daniel le rappelait au début, les épreuves ne sont pas épargnées aux chrétiens. Maladie, parfois la mort d'un proche, des situations difficiles avec les enfants, parfois même dans le couple, parfois conséquence de nos errements passés, mais surtout parce que nous devons savoir que nous sommes sauvés, mais cette création, elle est marquée par la chute. Et tant que nous serons dans la chair, elle est marquée par la chute. Je martèlerai cela tant que je serai là. Il nous faut savoir ces choses. Ne pas être dans un idéalisme. Penser qu'on est déjà sur terre. Nous vivons, nous pouvons vivre déjà de la patrie céleste. Mais pour l'instant, nous sommes là. Et ce monde, il est marqué par la chute, par la souillure. Et cela n'épargne pas les chrétiens. Oui, nous prions pour les malades. Et tous ne sont pas guéris, mais nous savons que Christ a vaincu la mort, la maladie, et que si notre corps extérieur se détruit, nous connaîtrons la résurrection par la puissance de celui qui a ramené le grand berger des brebis. C'est cela, notre foi. C'est cela, nous croyons. Nous prions. Mais Seigneur, Seigneur, tu as dit que tu guérissais, mais tu ne guérissais pas. Oui, mais nous savons qu'en finale, notre corps de misère, il nous permettra des choses et il nous bénit. Et nous avons des témoignages de guérison, de délivrance. Mais Corinthiens 15 nous rappelle que ce qui est semé, ce n'est pas ce qui lève. Et c'est quand il reviendra que nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, si nous sommes là, dans un corps qui ne connaîtra plus la mort. C'est là qu'est notre force. C'est avec cela qu'on avance. Alors non, nous ne sommes pas dans le désespoir. Parce que nous savons cela. Parce que nous avons foi dans l'œuvre accomplie, mais nous avons une ferme espérance. Persécutés, mais non abandonnés. Oui, vous allez me dire par la persécution. Il y a la persécution dans notre pays pour ceux qui sont véritablement sel et lumière, là où le Seigneur les a plantés. Il y a la moquerie et les moqueurs ne manquent pas dans ce monde. Les moqueurs ne manquent pas dans ce monde. De pauvres gens qui croient que Dieu existe et qui ont remplacé par les philosophies. Les moqueurs ne manquent pas. Et ça, c'est une persécution. Parce que des fois, je ne sais pas vous, mais ça peut bouillonner. Et pourront dire, mais ils n'ont rien compris. Et puis on pourrait même juger. Or le Seigneur nous dit, rends compte avec douceur de l'espérance qui est en toi. Et si tu ne peux pas le faire aujourd'hui, sois sel, empêche la corruption d'aller plus loin, sois témoignage vivant. Oui, il y a une persécution. Ça peut être dans notre propre famille. Dans les deux situations que nous avons lues des textes de Pierre, il est parlé de la calomnie. Ça fait partie de la vie du chrétien. J'allais dire de la vie ordinaire du chrétien. Calomnie de ceux qui se moquent de ce que nous vivons, alors que ce ne soit pas la calomnie, vous savez, c'est du mal qui est dit qui est faux. La médisance, c'est du mal qui est dit qui est vrai. Ça n'excuse pas celui qui médit, mais ça interpelle celui sur qui on médit. Si Paul nous rappelle qu'on ne soit pas jugé, moqué parce que notre conduite ne colle pas. Mais si c'est en raison de notre, justement de notre conduite qui est bonne, qui est conforme à ce que Dieu veut, alors nous sommes persécutés, il faut s'y attendre. Je cite les moqueurs, il y aurait d'autres sujets, mais au moins c'est celle-là. Parce que je crois qu'on est dans un temps où le moqueur, qu'à voir comment les humoristes de plus en plus grinçants, et c'est le moins qu'on puisse dire, on l'a la gloire. Ce monde se moque. Ce monde se moque de Dieu. Et normalement, cela doit nous faire souffrir. Abattu parfois, mais non perdu. Ce court verset de Paul, ce verset 8 et 9, là, se termine par ça, abattu, mais non perdu. Il y a des moments critiques, parfois, où la marche à contre-courant épuise. Les « à quoi bon ?» peuvent venir. Est-ce que je ne suis pas allé un peu loin ? Et puis c'est vrai, chacun peut penser ce qu'il veut. Et puis, il faut adapter la Bible à notre temps. Et puis le découragement vient et peut-être la révolte. Et peut-être, donc, comme ça nous a été rappelé, d'autres pensées, d'autres philosophies. Dans le fond, il ne faut peut-être pas tout rejeter. Alors le diable en rajoute une couche. En rappelant d'ailleurs nos passés, nos fautes, celles bien réelles, et puis les autres. Et là, nous sommes abattus. Oui, frères et sœurs, cela peut arriver. Cela arrive, et pourtant, Christ a été crucifié pour mes péchés et les vôtres. Il a fait lui-même la purification des péchés. Christ a été mis au tombeau. Christ n'a pas vu la corruption. Christ est ressuscité. Cela est accompli. Alors, je ne suis pas perdu, parce que j'ai cru que cette œuvre de Christ, elle est suffisante. Alors, Christ, tout à nouveau, me relève. Abattu peut-être, mais non perdu. En conclusion, je voudrais simplement relire à partir du verset 16. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, croyez-vous cela? Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Cette espérance-là, des choses invisibles, de la cité céleste, de la Jérusalem céleste, nous la possédons comme une encre de l'âme. Je ne parle plus de la foi, je ne parle plus du salut, je ne parle plus de l'œuvre de Christ, je parle de cette espérance, de la cité céleste où nous allons. Là, c'est notre espérance, parce que ce n'est pas encore là. Mais déjà, nous sommes assis dans les lieux célestes. Cette espérance, elle pénètre au-delà du voile, car ce voile a été déchiré dès aujourd'hui. C'est là que d'une part nous pouvons trouver refuge dans notre marche. Mais cela ne suffit pas. Le voile n'est pas ouvert simplement pour que nous trouvions refuge auprès de Dieu. Ça doit être notre lieu de vie. Ça doit être notre lieu de vie. Notre vie, elle est dans les lieux célestes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à aller à Dieu simplement, oui, quand nous avons besoin de refuge. Mais ce qu'il nous dit, c'est que c'est notre lieu de vie normal. Même quand tout va bien. Quand il y a la bénédiction. Vous pourriez dire, mais c'est évident, quand j'ai la bénédiction, je me sens près du Seigneur. Est-ce si sûr? Est-ce que quand j'ai la bénédiction, je ne commence pas à marcher de mes propres ailes, mes propres pas? Seigneur, donne-moi, dans les temps de la bénédiction, d'être dans les lieux célestes. Là où je peux parler à mon Dieu de tout, partager, là où peut me parler le soir dans le jardin. Alléluia. Alléluia. Le ciel est déjà notre patrie. Nous marchons dans la chair, mais pas selon la chair. Le ciel est déjà notre patrie, frères et sœurs. Et nous avons besoin de rechercher cela pour tenir jusqu'au bout, pour que nous continuerons d'être pressés, mais pas poussés à l'extrémité. Nous continuerons d'être abattus, mais pas perdus, nous continuerons d'être persécutés, mais ne pas abandonner. Parce que, ce chant l'a dit, on a le refuge auprès de lui, on a notre maison déjà auprès de lui. Cette maison, il est en train de nous la préparer. Mais déjà, nous la voyons. Déjà, nous la voyons. Si ceux qui nous ont précédés dans la foi, si les patriarches, et les prophètes de l'Ancien Testament ont vu et salué de loin le Christ. Et qu'il est dit que Dieu n'a pas permis qu'il vive ces choses avant que nous, nous venions, alors combien plus forte raison, nous qui avons toute la parole, toute la révélation, elle est à notre disposition, elle est disponible, on n'a pas besoin d'aller la voler, elle est là, à combien plus forte raison devons-nous nous en nourrir, nous en pétrir, pour être équipés, pour être au bon endroit, pour être assis dans les lieux célestes, pour avoir cette marche et tenir jusqu'au bout. Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu agis aujourd'hui. Tu continues d'agir. Tu arraches encore des ténèbres, Seigneur. Tu déchires encore les voiles aujourd'hui de ceux qui étaient retenus captifs par l'ennemi de nos âmes, mais aussi, Seigneur, de ceux qui t'appartiennent. Tu veux ouvrir plus grand, Seigneur. Tu ne veux pas juste une fissure dans le voile, tu l'as ôté, Seigneur, à travers ta chair. Tu as ôté ce voile. Tu nous veux, Seigneur, assis avec toi dans les lieux célestes. Je te prie ce matin qu'à travers ce que nous avons vécu, à travers ce témoignage, qui nous rappelle, Seigneur, ce que tu as fait dans chacune de nos vies, nous ne gardions pas cela pour nous, Seigneur, mais que nous soyons des témoins fidèles par une vie transformée, une vie à contre-courant, mais une vie dans la clarté, Seigneur, qui n'a pas de conduite astucieuse, Seigneur. Je te loue et je te bénis pour ce que tu fais ce matin dans les cœurs, Père. Amen. Amen.